Oui, bonjour. Je suis globalement satisfait par cet exposé. Ah oui, je précise, donc je suis ONPA révolutionnaire. Je rappelle qu'aux dernières élections municipales, lorsque notre organisation n'a pas présenté de liste, mais que dans la commune, il y avait une liste de lutte ouvrière, nous avons appelé à voter pour lutte ouvrière. Bon. Donc, je suis globalement satisfait, mais il y a quand même quelques points avec lesquels je tique un petit peu. Le premier, alors ça me gêne un petit peu parce que je suis arrivé un peu en retard, alors peut-être que j'ai raté quelque chose avant mon arrivée, c'est à propos de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il n'a jamais eu la majorité absolue. Aux élections de 1933, il a même eu moins de voix qu'en 1932. Il y a eu des magouilles avec Hindenburg, etc. Et il a finalement été désigné comme chancelier sans avoir remporté les élections. Il me semble que ça mérite d'être rappelé parce que c'est pas le peuple allemand qui l'a propulsé au pouvoir. Il y avait une forte proportion de 30 et quelques pourcents, je crois. Mais enfin, il n'a jamais eu 50% des suffrages des électeurs allemands. Le deuxième point, c'est à propos de 1936, au moment du Front populaire en France. Le Parti communiste n'a pas participé au gouvernement. Je crois que ça aurait été intéressant de préciser pourquoi, quelle explication il a donné et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Autre point, les trotskistes en France, dans d'autres pays aussi, mais enfin, en ce qui nous concerne, en France, Trotsky préconisait l'entrisme. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une erreur de Trotsky d'avoir préconisé l'entrisme. Enfin, le fait est qu'il l'a fait et qu'il y avait, à l'intérieur du parti socialiste SFIO, une tendance trotskiste. Ça aurait été intéressant d'en parler. Et puis, dernier point, il y a eu des bouquins qui ont été publiés par Trotsky. Où va la France ? Ça aurait été intéressant d'en dire un mot. Je crois même qu'il y a eu deux versions. Si je ne me trompe pas, ça aurait été intéressant d'en dire quelques mots. Puis peut-être un mot aussi de Marceau Pivert, qui avait sorti une brochure, je crois, disant « Tout est possible », etc. Enfin, il y a un certain nombre d'insuffisances, à mon avis, dans cette partie de l'exposé. Merci.
Merci. Oui, on prend une autre question.
Bonjour. Ah, attendez. Ça marche là ? Ah, ok. Bonjour, Bossé Chems. Je ne suis pas affilié à un parti politique spécifique. Alors, moi, j'avais que deux points à souligner. Déjà, vous avez fait beaucoup d'alignement avec le présent, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut constater qu'aujourd'hui, sur la scène politique, il y a beaucoup d'ouvriers qui votent à l'extrême droite, notamment au RN. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, hein, parce que sur le plateau de CNews, par exemple, on avait dit que le RN avait une politique de gauche, par exemple. Voilà, c'est une nouvelle surprise. Et vis-à-vis de ça, ma question, c'est comment vous percevez la perception plutôt anticapitaliste que certains penseurs corporatistes tentaient de prôner, comme par exemple Charles Maurras, dans ses ouvrages-là. Et comment vous pensez que aussi la conscience de classe pourrait se réaffirmer dans la société française, notamment au sein des ouvriers et du prolétariat? Et comment faire pour qu'il y ait une réorientation de la politique pour que les travailleurs puissent sortir de ce rêve corporatiste que l'extrême droite peine à vendre encore aujourd'hui? Merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui,
il y a une question là-bas.
Bonjour, merci. C'est pas une question, c'est juste pour raconter un truc. Ma famille, elle vient du bassin minier dans le Pas-de-Calais, et on a retrouvé dans les affaires de mon arrière-grand-père, qui était un militant du PC, une photo avec une vingtaine de gars qui sont fiers comme des paons, qui date de 34. Et en fait, c'est une milice qui a été fondée en commun par le PC et la SFIO. Et alors, cette milice, elle n'a pas été dissoute dans des combats avec les croix de feu, par les flics, par les gouvernements entre 34 et 36, mais bien par les soi-disant conquêtes du Front populaire où ils se sont dit finalement il n'y a plus tellement besoin que ça existe, parce que ça y est, on a gagné quoi. On n'a plus besoin de se défendre par nous-mêmes et de faire l'effort, de se réunir, de discuter et de se préparer physiquement.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Oui.
Merci. Oui, merci pour la présentation. Du coup, j'avais une rapide question. C'était, du coup, on voit bien que là, le PCF, il rejoint totalement les intérêts de la classe bourgeoise, qui trahit. Et ma question, du coup, c'est est-ce qu'avant le Front Populaire, est-ce qu'avant 36 et toutes les manigances qu'il y a pour plaire au parti radical, il y a des signes avant-coureurs qui montrent que le PCF est en train en fait, d'abandonner cette lutte des classes ? Est-ce qu'il se présente toujours comme un parti totalement révolutionnaire ? Est-ce que c'est perçu vraiment ? Est-ce que c'est le premier geste d'une trahison vraiment par rapport aux idéaux communistes ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais...
Alors, je crois qu'il y a une main qui se lève là-bas.
Oui, simplement sur la première intervention. Quand on dit que le peuple allemand n'a pas voté pour Hitler, excusez-moi, hein, quand on voit tous les documentaires de cette époque, tous les bras levés en direction du parti nazi et en direction d'Hitler, dire que le peuple allemand n'a pas voté pour Hitler, c'est vraiment une connerie, hein.
Peut-être une dernière question et puis après on répondra.
Bonjour. Alors voilà, moi je suis apparenté à aucun parti, mais je suis de gauche radicale, hein, je me le sens lequel. J'ai lu le programme du comment ça s'appelle là, c'est toujours la nouvelle mouture là, de LFI. Voilà. J'ai lu le programme de LFI. J'ai comparé avec le programme de Mitterrand en avril 1981. Je suis désolé, hein, ça remonte au calendrier grec, mais enfin, ça a quand même marqué. Ah ! Bon. Non, je peux parler sans micro, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut dire que le programme de LFI est un programme de collaboration de classe tel qu'était le programme du Front Populaire ? Ou bien est-ce que ça va un peu plus loin ? Merci.
Alors, pas de regrets. Ah, donc.
Bon. Je ne veux pas prolonger, mais je voudrais savoir que faisait Trotsky à cette époque-là et est-ce qu'il est allé aux manifs avec les ouvriers pour les aider contre le Front Populaire ? Est-ce qu'il a pu faire quelque chose ?
Ok. On va s'arrêter peut-être là pour les questions. Pas de regrets.
Alors peut-être en démarrant sur la discussion qui s'est engagée sur le parti nazi, Hitler, les Allemands. Bon, moi ce que j'ai mis en avant et ce que je pense est le plus important, c'est de comprendre que le parti nazi, il a été choisi par la bourgeoisie allemande à un certain moment dans une certaine situation historique. C'était un pays... qui ressemblait à la France, dont on peut se dire, voilà, il y avait des libertés démocratiques, il y avait tout ce qu'on veut, et à un moment donné dans l'histoire, la bourgeoisie a choisi de se rallier à un gars comme ça. Elle le finance, elle l'arme, parce qu'elle veut aller vers la guerre, parce qu'elle est au milieu d'une crise profonde, et qu'elle a besoin d'une dictature extrêmement féroce qui utilise une partie des gens qui ont été appauvris par la crise, pour les lancer contre le mouvement ouvrier. C'est ça le truc le plus important, je pense qu'il faut retenir de ça, parce qu'on a, du mal à se... Avec ce qu'on nous dit de ça, en tout cas aujourd'hui, on a du mal à se dire que ça pourrait recommencer. Or, si la crise s'aggrave, si une partie des classes moyennes perd tout espoir, si jamais il y a des courants d'opposition dans le pays, vous pouvez imaginer toutes les situations que vous voulez. La bourgeoisie française, elle ira chercher aussi des gens comme ça, des barbares qui voudront mettre la tête à toute la population sous l'eau pour pouvoir faire passer ses intérêts. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, c'est une arme de la bourgeoisie dans une certaine situation contre le mouvement ouvrier et contre toute la population. Alors, il y a eu quelques questions aussi sur Trotsky, que j'ai cité plusieurs fois, et puis les trotskistes aussi en France, par exemple, auxquels j'ai fait allusion un petit peu. Alors, Trotsky, c'était donc un des principaux dirigeants de la Révolution russe. Je l'ai dit au début du topo, mais ça commence à être un peu loin, donc c'est... Il n'était pas le seul, parmi les cadres de la Révolution russe, mais à s'être battu contre la bureaucratie, pour que la classe ouvrière reprenne ses droits, etc., en Union soviétique. Il avait levé ce drapeau-là. Et pour cette raison-là, il avait été chassé d'Union soviétique par la bureaucratie. Ils avaient peur des liens qu'ils pouvaient entretenir avec tous les militants, avec toute la contestation qui existait en Union soviétique. Il a été chassé à la fin des années 20. Donc Trotsky, il s'est retrouvé expulsé. Et il était chassé de pays en pays, parce qu'il n'y avait pas tellement de pays capitalistes ni de bourgeoisie qui avaient envie d'accueillir quelqu'un comme ça. Mais lui, c'était un militant. Et donc il a continué de militer. En dehors de l'Union soviétique, il a cherché des militants. Il a cherché à reconstruire des organisations et des partis. Et puis, il faut se dire que là, du coup, il fallait qu'il défende contre tous les staliniens toute la transformation de l'expérience de la Révolution russe. Qu'est-ce que ça avait été, la Révolution russe? Alors, il avait du coup une expérience particulière. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'en ai parlé, mais c'est aussi pour ça que quand on lit ce qu'il a écrit à cette époque-là, on a l'impression qu'il voit les problèmes à l'avance et qu'il voit des solutions pour les travailleurs. Parce que lui, il avait vu ce que c'était les travailleurs en Révolution et jusqu'où ils pouvaient aller. Alors, il a cherché aussi des militants en France. Il n'était pas en France au moment de la grève générale de 1936, mais il a trouvé des militants. Il y a eu une allusion, je pense à ça, à un moment donné, qui ont, par exemple, eu une influence sur ces jeunesses socialistes qui se radicalisaient, qui allaient vers les idées révolutionnaires. Mais le problème qu'il a eu, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'en fait, ils se sont jamais liés à la classe ouvrière. Ils n'ont jamais réussi ça. Ils ont peut-être, alors je dis peut-être parce que on n'est plus dans les années 30, et moi j'ai pas milité dans les années 30, et je me suis pas cogné les staliniens comme ils se les sont cognés, donc je dirais peut-être. Ils ont peut-être pas tout à fait compris non plus sa politique, pourquoi il avait autant d'insistance là-dessus, Trotsky, aller vers la classe ouvrière, gagner des appuis parmi les travailleurs, se lier à eux. Et du coup, quand on est arrivé à la grève avec occupation de mai-juin 1936, ils n'ont eu aucun rôle. Voilà, aucun rôle. J'ai cité le journal qui paraissait, il a été saisi tout de suite, et c'est nous, après coup, qu'on peut en prendre connaissance. Mais à l'époque, ils n'ont eu aucun rôle. Donc, bon, ça fait réfléchir aussi pour nous. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une grève générale. Même si aujourd'hui, on se dirait, bah, c'est quand même toujours ça, hein, une grève générale. Mais ce n'est pas tout d'avoir une grève générale. Pour avoir une influence, pour que nos idées comptent, pour que les travailleurs y puissent passer par-dessus tous ces obstacles, les réformistes, les gens qui voudront les faire rentrer dans le rang, les faire rentrer chez eux, il faut qu'il y ait aussi des partis communistes qui aient trouvé le lien avec la classe ouvrière, qui se soient dédiés à ça. Et c'est ça qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Sinon, on sera dans la même situation qu'eux. Je prends une minute parce que j'écris mal. Des signes avant-coureurs de la trahison du Parti communiste, leur trahison des idées communistes, de la classe ouvrière. Bon, il y en a un peu à deux niveaux. J'en recite une quand même parce que quelque part c'est celle qui détermine toutes les autres du point de vue en tout cas de la direction du Parti communiste. C'est sa fidélité à la bureaucratie soviétique. Tu vois, ça, c'est le premier truc que j'ai raconté au début. C'est voilà, cette prise de contrôle-là et tout ce qu'il y a derrière, hein, de trahison des idées bolcheviques et de la révolution russe. Donc ça, c'est une grande trahison. Parce que quand on dit la mémoire, etc., les expériences de la révolution russe, des années rouges en Italie, etc., elle n'est pas parvenue aux travailleurs, mais elle n'allait pas se déposer du ciel sur les travailleurs. Hein. C'était le parti qui devait le transmettre, ça. Donc ça... Voilà, ça c'est grave, et ça, il y a quelques militants qui l'avaient vu, mais c'était, voilà, c'était pas simple à discerner. Après, pendant les événements, il y a des tas de choses. Mais j'en prendrai un, si tu veux, pour pouvoir se rendre compte, y compris pour se rendre compte du fait que c'est pas si simple. En août, à l'été 1935, j'ai parlé des décrets-lois à Laval, qui baissent les salaires des fonctionnaires, etc. Une grande colère, les émeutes à Brest et à Toulon. Si tu ouvres l'Humanité, pendant, disons, au moins 15 jours ou 3 semaines jusqu'aux émeutes de Brest et Toulon, c'est tous les jours que les décrets-lois sont dénoncés. C'est les décrets de famine, le gouvernement affame le peuple, etc. C'est très très dur, hein, dans les mots, dans la dénonciation. Mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Et alors là, c'est vraiment intéressant, tu tournes les pages, tu te dis, mais c'est pas vrai, c'est tout le temps le même article, tout le temps la même chose. Ils disent, eh ben écoutez, voilà, il faut manifester les travailleurs dans chaque service, à la fin de la prise de service, au début de la prise de service, il faut faire des pétitions aux chefs de service dans chaque administration, dans chaque bureau de poste, et puis exiger que les syndicats s'unissent, parce qu'une fois que les deux syndicats seront unis, alors là, on pourra contrebalancer les choses, etc. Et le journal, il est plein de récits de tel dépôt de train, telle administration, où il y a 20, 50 travailleurs qui se sont réunis pour protester devant le chef de service. Il n'y a pas d'appel à la grève. C'est comme ça dans tout le pays. Et en plus, quand tu réfléchis, tu te dis, mais les baisses de salaire et tout ça, c'est pas que dans la fonction publique. Il y avait des tas de travailleurs dans le privé, dans les usines, qui avaient subi ça les années précédentes. Et c'est probablement pour ça que quand la colère, elle explose à Brest ou à Toulon, c'est pas juste les gars de l'arsenal. Ils sont rejoints par la population, par des gens qui disent « mais c'est insupportable de continuer à vivre ça ». Et à ce moment-là, quand la colère, elle explose fort, que l'attention du pays, elle est tournée vers ça, il se passe ce que j'ai dit, le PC et la SFIO, hein, qui disent « voilà, ceux qui se battent là, c'est des fascistes, hein, c'est des provocateurs. » Donc tu vois, voilà, quand on dit il pouvait y avoir une politique qui permette aux travailleurs de construire quelque chose d'autre, de prendre de l'expérience, de construire une autre direction, de se diriger, d'étendre des luttes, parce qu'il y avait des expériences qui étaient vécues par des centaines de milliers de travailleurs en même temps, quand Trotsky parle de tout ça, il pense à ça. Et bon, après, j'ai envie de dire, dernier truc quand même, malgré tout, ils n'ont pas réussi à empêcher la grève qui se déclenche, tu vois. Mais par contre, ils ont réussi à l'arrêter, et tout ce qui n'avait pas été construit avant, eh ben, ça s'est payé à ce moment-là. Bon, c'est pas pour être négatif, hein, c'est aussi pour nous, il y a quand même des raisons pour lesquelles on construit des partis révolutionnaires, donc voilà, c'est pour ça, pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Alors, la question du copain qui dit, bon, sur le programme de LFI, est-ce que c'est comme celui de Mitterrand ? Est-ce que ça ressemble plus au programme du Front populaire ? Écoute, là-dessus, je ne sais pas trop quoi te dire, hein, honnêtement, parce que les situations sont vraiment très, très, très différentes. Le point commun, c'est quoi ? On peut en trouver un, mais il n'est pas que entre ceux-là. C'est de dire aux travailleurs, eh ben de toute façon, hein, votez, il n'y a que ça que vous pouvez faire. Et puis le reste, vous allez bosser et subir, et puis c'est tout. Voilà. Après, les formules, les mesures, c'est du vent même pour ces gens-là. Ils ne les respectent pas, ils s'assoient dessus, ils s'en foutent. Le programme de Mitterrand, il est beaucoup plus radical que le programme du Front populaire. Qu'est-ce que ça change ? Tu vois, donc ce que j'ai envie de dire, c'est ça le point commun. Et nous, par rapport à ça, notre perspective, c'est au contraire, même si la classe ouvrière ne croit pas en ses forces aujourd'hui, de dire, répéter, ça dépend de vous, ça dépendra de vous, l'avenir, il dépend du camp des travailleurs. Je crois... Mais vous me direz si c'est OK, qu'il reste une question surtout. Celle du camarade qui se demandait comment, enfin qui demandait comment est-ce que la conscience de classe elle peut revenir aujourd'hui. Voilà, il y a du vote RN, il y a des tas de choses. Bon, comment est-ce que la conscience de classe elle peut revenir? Eh bien, moi je pense qu'elle peut revenir de la même manière qu'elle est revenue pendant la Première Guerre mondiale ou après, et pendant les années 30. Comment est-ce qu'elle est revenue? Qu'est-ce qu'on a... Enfin bon, elle est revenue sous les coups du patronat. C'est la bourgeoisie, parce qu'elle lâchait jamais l'affaire, qu'elle a plongé les gens dans la misère, qu'elle leur a dit, tiens, tu croyais que c'était fini, mais non, moi j'en veux encore. C'est ça qui a entraîné le réveil de la conscience ouvrière. C'est pas des partis, c'est pas des organisations, c'est pas un intellectuel ou une chanson. Ça venait de le vrai réveil de la conscience ouvrière, il venait de là, parce qu'on l'a vu là, il vient à des millions de personnes, pas forcément en même temps, parfois ça va prendre des années, des mois, ça va passer d'un pays à l'autre, mais elle vient de l'attaque de la classe capitaliste. Ça peut être des attaques économiques pendant la crise, c'est ça qu'il y a eu aux États-Unis. J'ai fait une allusion brève. Bon, ben, c'est face à la misère que les travailleurs ils ont réagi au bout d'un moment, qu'ils se sont battus. En France aussi, mais pas que. C'était aussi une réaction à l'offensive de la bourgeoisie qui avait attaqué les travailleurs allemands et qui les avait brisés avec le parti nazi. Les travailleurs ils se sont dit, ça nous, on ne veut pas le laisser faire, on ne veut pas que ça recommence, on veut se battre, on veut l'unité d'action pour se battre contre ça. Donc je pense que la clé, le truc important là-dedans pour nous, c'est ça. C'est les patrons qui pousse les gens à se battre. C'est la bourgeoisie avec son avidité et ses guerres qui poussent les gens à se battre. Par contre, nous, là-dedans, quel rôle on peut jouer? Le rôle, ce qu'on peut faire même dès aujourd'hui, en sachant que ça va arriver, c'est de se dire, eh ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que les travailleurs ils aient comme idée? Quel programme on doit défendre? Combien il y aura de travailleurs communistes révolutionnaires à ce moment-là? Combien il y aura de gens, tu vois, dans les usines? Parce que quand elles étaient occupées et qu'elles étaient gardées par les piquets de grève, tu ne pouvais pas rentrer comme ça. Les travailleurs, ils se méfiaient, ils avaient peur que les ligues arrivent. Combien il y aura de travailleurs à ce moment-là qui diront, les usines, on les a prises, on ne les rendra pas?